Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Le syndrome de l'imposteur, ça permet de sortir de cette zone de confort, de nous challenger, de regarder un horizon qu'on n'aurait peut-être pas observé.
Quand les gens ils viennent chez moi qui font des portraits, ça leur permet de dépasser le syndrome de l'imposteur. C'est une première étape pour avoir ce déclic et pour se dire je me montre et j'assume qui je suis.
C'est comme si le syndrome de l'imposteur, c'était un petit peu comme une peur que tu dois relever. Si tu arrives à la franchir, waouh, le monde des possibles, il s'ouvre.
C'est beaucoup plus facile d'être soi que de jouer un rôle.
Ouais.
Et en plus, les gens adorent ça. Donc pourquoi on passe notre temps à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver dans le podcast des indépendants, saison 3, épisode 11 sur BFM Business. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui semble être un boulet au pied pour beaucoup et qui empêche d'avancer, le fameux syndrome de l'imposteur. Objectif, qu'après l'avoir écouté, vous vous autorisiez à vous affirmer, à réaliser ce que vous avez à réaliser et à vous montrer. Et pour y parvenir, 4 super invités.
Alice Catolino. Avec plus de 240 000 abonnés sur Instagram, Alice accompagne les entrepreneurs dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux. Elle est aussi l'auteur de Solide aux éditions Solar. Deuxième invitée, Amélie Marzouk. Artiste photographe reconnue, elle a notamment réalisé les portraits d'Audrey Lamy et Kelly Massol. Son credo, réconcilier les femmes avec leurs images. Troisième invitée, Emma de Tony. Après une carrière de plus de 25 ans en tant que salariée dans la communication, Emma s'est mise à son compte pour accompagner les créatrices et les artisanes sur les réseaux sociaux. Le but, qu'elle sorte du lot et attire de nouveaux clients. Pour finir, Christelle Albaré, psychologue, connue pour participer à l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2. Christelle est aussi très suivie sur Instagram avec plus de 170 000 abonnés. Son accroche, « Je ne répare pas, je reconnecte ».
Bonjour à toutes.
Bonjour Ludo.
Alors pour commencer cette émission, j'avais envie de souligner un point sur lequel vous êtes toutes d'accord, sur le fait que finalement, le syndrome de l'imposteur, ça peut être une chance. C'est plutôt un bon indicateur. Emma.
Bah oui, parce qu'en fait, je pense que déjà, ça concerne tout le monde. Hein, le syndrome de l'imposteur, voilà, tout le monde y est confronté. Et surtout, je trouve que si on souffre du syndrome de l'imposteur, ça veut dire que, quelque part, on commence à douter, on commence à se remettre en question. Et si on se remet en question, c'est justement qu'on est prêt à évoluer, à progresser.
C'est qu'il
apprendre.
Se passe un truc.
Plus qu'un truc, ça veut dire surtout, c'est qu'on est prêt à évoluer. Parce que si on est prêt à regarder ses défauts en face, ça veut dire qu'on est aussi prêt à faire ce qu'il faut pour changer les choses ou pour voir les choses différemment.
Mais ce que tu me disais, Alice, c'est que finalement, c'était un indicateur qui disait qu'on était sorti d'une vie routinière, dans un métier dans lequel on est habitué, où on prend zéro risque.
Exactement.
Et c'est en ça que c'est hyper positif, en fait.
Ben oui, le syndrome de l'imposteur, ça permet de sortir de cette zone de confort, de nous challenger et donc de regarder un horizon qu'on n'aurait peut-être pas observé. Quand c'est déjà habituel, qu'on a ces petites habitudes, hein, comme à la maison, finalement, on ne rentre pas dans un processus d'apprentissage. On est moins enseignable et on va rester dans son petit carcan habituel. L'avantage du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il nous dit « Oula, ici, il va falloir que tu te remettes en question, il va falloir que tu apprennes, il va falloir que tu observes. Peut-être qu'il va falloir que tu te sentes plus grand, plus grande que ce que tu n'es déjà. »
C'est pour ça que je voulais commencer cette émission comme ça, c'est parce que ça nous dit aussi que finalement c'est un bon indicateur, il faut le souligner et pas voir le syndrome de l'imposteur que comme un boulet. Christelle ?
Ça va dépendre de chacun. On va dire qu'on a tous un héritage et pour certains, le syndrome de l'imposteur, au moment où on le voit arriver, c'est un marqueur qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser, d'être en mouvement, mais en fonction de notre personnalité, en fonction de ce qu'on a vécu, de nos épreuves, de nos permissions ou pas, le syndrome de l'imposteur peut être aussi une période qui nous met dans l'immobilisme et pas seulement ça peut nous paralyser. Donc il y a certaines personnes qui vont pouvoir être paralysées à cause de ce doute et d'autres qui vont l'utiliser comme une forme d'opportunité pour essayer de traverser. Mais dans tous les cas, peu importe le point de départ, on peut tous arriver à transformer le syndrome de l'imposteur. Même si pour certains, on a le sentiment que c'est plus facile à traverser que d'autres, en réalité, en vrai, on l'a tous un jour, le syndrome de l'imposteur. Et on peut même l'avoir à plusieurs moments de notre vie, même dans les moments où on réussit le plus.
Oui, parce qu'au fond, on est tous des imposteurs. Je veux dire, personne n'est né avec une fonction définie. On a tous besoin de s'installer dans un métier, de gagner en crédibilité, etc. Et ça prend du temps.
Je vais dire non en ce qui concerne le fait qu'on soit tous des imposteurs, parce que je pense que c'est une croyance et qu'il y aura un changement à faire. Il faut arrêter de penser qu'on est tous des imposteurs. Il faudrait vraiment se dire qu'en réalité, on n'a pas une seule fois à se penser comme imposteur, mais à s'assumer d'être soi tel qu'on est, avec nos failles autant qu'avec nos qualités, et que se dire que de toute façon, la vie, elle nous amène des épreuves qui font la croyance que l'imposture fait partie du système, ça serait la chose à dégommer, en réalité.
Amélie, toi, tu es dans cette logique-là, c'est-à-dire que tu as ce syndrome de l'imposteur, on peut le dire très clairement. Moi, je te vois comme une grande photographe, comme une artiste, et j'entends dans ton discours que tu n'as pas forcément la même vision de toi aujourd'hui, il y a des doutes, etc. Il y a ce sentiment un peu d'imposture, et c'est en construisant des projets, en gagnant en crédibilité, que tu effaces ce sentiment.
Oui, mais je pense comme Alice que le syndrome de l'imposteur, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu commences à l'avoir, parce que moi je l'ai par phase, il y a des moments où la petite voix diminue dans ma tête, quand tu commences à l'avoir, c'est aussi que tu t'approches de tes rêves. Parce que quand tu fais des choses qui ne te font pas vibrer, le syndrome de l'imposteur, il s'efface un peu. Alors que quand tu t'approches de tes rêves, c'est là que ça se réactive. Et pour moi, en tout cas, c'est que même quand je l'ai, je me dis qu'il ne faut pas que ça m'empêche d'oser. Ouais. Parce que mes rêves, ils sont plus grands que le syndrome de l'imposteur. Et que de toute manière, si je rate, personne ne s'en rappellera. C'est aussi ça mon mantra.
Oui, ça c'est hyper important. Si on rate, personne ne s'en rappellera. Et par contre, si on n'ose pas, nous, on s'en rappellera en se disant « je n'ai pas osé ». Et quelqu'un d'autre a pris la place. Et c'est l'un des pièges du syndrome de l'imposteur, Emma. Et je voulais que tu sois sur ce plateau parce que je trouve que tu es hyper inspirante sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Où finalement, toi, tu as fait un virage à 180 degrés dans ta vie après un moment assez compliqué. Mmh. Et tu te retrouves à te dire « ok, affirmez-vous, soyez vous-même ». Et on met de côté ce syndrome de l'imposteur. Finalement.
En fait, le problème, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est un bon indicateur pour te dire, ok, là, t'es prête à vouloir évoluer, mais ça peut être aussi quelque chose qui te bloque complètement.
Oui, c'est ce que disait Christelle.
Et donc, le problème, c'est que si ça te bloque complètement, du coup, tu t'empêches de faire des choses, tu t'empêches de vivre tes rêves, tu t'empêches de te montrer tel que tu es, tu t'empêches même de te révéler à toi-même. Et c'est ça qui est complètement nul. C'est comme si le syndrome de l'imposteur, c'était un petit peu comme une peur que tu dois relever, en fait. Hein. C'est une peur, mais qui est plutôt positive. C'est-à-dire, si t'arrives à aller au-dessus, si t'arrives à la franchir, waouh, le monde des possibles, il s'ouvre, quoi.
Ouais, finalement, la peur, c'est un bon indicateur. Quand on a cette boule au ventre, ça veut dire qu'on est probablement à sa place. Et je voulais aussi revenir sur un point sur lequel vous êtes toutes d'accord, c'est que c'est plus compliqué pour les femmes. D'ailleurs, vous êtes quatre femmes en plateau. Vous me parlez toutes les quatre d'héritage social.
Waouh, et il y a du balèze. Hein.
Et il y a du balèze.
Il y a du dossier, ouais.
Je ris.
Alice.
Moi, en plus, j'ai l'étiquette femme et puis j'ai l'étiquette femme cliché. Alors, je connais ce syndrome de l'imposteur et puis toutes les remarques qui vont avec, mais du coup je l'ai cultivé, moi, tu vois. J'ai grandi avec des parents très féministes, très à fond sur l'éducation égalitaire. Ma mère était psychosociologue, mon père à fond. Alice, t'es mon petit garçon, je vais t'offrir aussi un atelier. Et mon frère jouait au Barbie. Enfin, on n'avait vraiment pas de genre, tu vois, ouais. Tous les deux. Mais avec l'âge, j'ai développé une fascination, notamment pour les poupées, notamment pour Barbie, parce que je me disais, elle sait tout faire, Barbie. Barbie, elle sait conduire un avion. Elle sait retaper un camping-car. Bref. Et donc je me suis dit, moi je serais une Barbie dans un milieu d'hommes et je vais bien exacerber le trait. J'aurai bien des cils, des ongles, des cheveux et je vais te montrer que malgré tout j'ai un cerveau. Donc j'ai beaucoup cultivé ça. C'est ma façon à moi d'être féministe et de faire un pied de nez au syndrome de l'imposteur, mais je l'ai beaucoup ressenti évidemment en tant que femme.
Et dans le discours d'Alice, Christelle, on entend qu'effectivement le milieu, le passé, l'histoire évidemment a un impact sur l'intensité du syndrome de l'imposteur, parce que tu dis, je viens d'une famille féministe finalement qui m'a portée, où je pouvais m'affirmer, etc. C'est pas le cas de tout le monde.
L'héritage culturel, l'héritage familial, l'héritage de notre éducation, les premières années de notre vie vont avoir une influence sur la façon dont on va se construire. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément parce qu'en effet, on a eu une enfance maltraitée. Ça peut être aussi, par exemple, je réussis aujourd'hui, mais je viens d'un héritage familial, par exemple, famille d'immigrés. On m'a donné les moyens à moi de pouvoir réussir. Aujourd'hui, je réussis, mais par exemple, je suis en train de réussir socialement, je suis en train de réussir financièrement, mais est-ce qu'on va toujours continuer à m'aimer par rapport à mon identité d'origine ? Donc, il y a ce qu'on appelle des conflits intérieurs. Eh ouais. Ils peuvent être liés à plein d'endroits et on ne les voit pas forcément arriver. Et c'est ça, en fait, qui est le maître mot dans le syndrome de l'imposteur, c'est d'arriver à identifier quel est ce conflit intérieur pour arriver non pas à vouloir être dans l'affrontement, mais de pouvoir harmoniser les deux parties de soi.
C'est intéressant parce que je vois que dans presque tous les épisodes du podcast des indépendants, il y a un point qui revient, c'est apprenez à vous connaître.
Mmh. Oui, oui, vraiment.
C'est de prendre le temps, effectivement, d'aller voir un psychologue, ou en tout cas de trouver des clés et de comprendre comment on fonctionne, parce que sinon on va subir tout ça finalement.
On peut le subir une vie entière.
Amélie.
Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une quête personnelle au-delà d'être une quête professionnelle. Parce que depuis que je me suis lancée il y a 11 ans, je me connais beaucoup plus. Effectivement, je me suis fait accompagner et que le syndrome de l'imposteur dit quelque chose de nous de très personnel. Moi, je vois, j'ai des parents qui sont fonctionnaires tous les deux. Et je voulais être photographe à 18 ans et c'était pas envisageable. J'étais confrontée à leur propre peur et il a fallu que je dépasse leur peur et les miennes pour pouvoir y arriver. Et encore aujourd'hui, des fois, quand ça revient, je me dis, attends, est-ce que c'est mes peurs ou est-ce que c'est les peurs de ma famille, de toute ma lignée, en fait, que je suis en train de porter? Et ça, c'est vachement important, ce que disait Christelle, de se questionner sur d'où ça vient et qu'est-ce que ça raconte de nous.
Quel est l'héritage?
Quel a été le déclic, Emma, à un moment donné, de te mettre en scène comme tu le fais sur Instagram? Alors, je dis te mettre en scène, en tout cas, effectivement, tu fais des vidéos où tu t'assumes à 100%, et d'ailleurs, tu es hyper épanouie, etc. Toi, ton métier, c'est d'accompagner les artisanes, un peu à faire la même chose, en tout cas, incarner ce qu'elles font. Quel a été le déclic pour le faire? Parce que moi, je suis assez admirative. Quand je vois ton contenu, je trouve que c'est très audacieux, je trouve ça génial. Je me dis, est-ce que j'arriverai à me lâcher et être autant moi-même que tu es toi-même dans les vidéos? Comment ça se passe intellectuellement, émotionnellement?
Je pense que c'est un long chemin, mais tout est un long chemin. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est un long chemin, etc., etc. Et donc, du coup, effectivement, moi, mon déclic, ça a été tout simplement que j'avais envie de partager plus. J'avais envie de connecter plus avec les gens. Et si on veut connecter, si on veut avoir des relations plus enrichies, il faut s'ouvrir un petit peu. C'est pas une relation qui marche que dans un sens unique. Quand on connecte avec les gens, ça marche dans les deux sens. Mmh. Moi, mon déclic, ça a été de dire, j'ai envie de partager. Donc du coup, je vais oser m'exprimer un peu plus. Je vais oser être comme je suis dans la vie, en fait, hein, sans filtre, sans tabou.
Mais le moment où tu dis, ok, j'y vais, je vais faire ce type de contenu, c'est quoi? C'est de se dire, ok, on s'en fout.
Oui, on s'en fout parce qu'en fait, le plus important, c'est ce que j'ai envie de livrer. Le plus important, c'est les émotions que je vais transmettre. Le plus important, c'est la relation que je vais construire avec l'autre. C'est ça, en fait, qui est le plus important. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous la grappe. Voilà, oui, on se lâche la grappe.
Et se montrer, c'est vraiment un outil hyper puissant. Moi, je le vois tous les jours avec la vidéo et avec la photo. C'est que quand les gens ils viennent chez moi, qui font des portraits, ça leur permet de dépasser le syndrome de l'imposteur. C'est une première étape pour avoir ce déclic et pour se dire, je me montre et j'assume qui je suis. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant comme outil.
Oui, la photo, c'est ce qu'on disait en préparant cette émission, c'est que c'est un moyen, c'est une première étape pour aller faire plus d'exposition, on va dire, ensuite. C'est ton métier et tu disais effectivement que c'était beaucoup de tes clients ont ce syndrome de l'imposteur à la base.
Bah, ils arrivent et ils me disent, mais moi je voulais pas faire de photos parce que je suis qui pour me montrer? Je suis pas narcissique, je veux pas avoir l'air égocentrique. Alors que se montrer, déjà, c'est exister, être visible et réaliser son rêve. Parce que si tu te montres pas, personne te connaît, personne te voit. Donc quand Emma, elle parle de ça, c'est aussi, bah, peu importe le regard des autres, et c'est ça le plus dur, c'est quand t'as le syndrome de l'imposteur, t'es très focus sur le regard des autres, et quand t'arrives à le dépasser, je pense que c'est là que le déclic se fait.
Et c'est justement, moi, c'est exactement ça que ça m'a apporté, en fait, de me montrer sur les réseaux. Parce que moi, quand j'ai démarré sur les réseaux, je floutais mon visage.
Ah ouais.
Faut quand même avoir conscience que
avec
moi,
ces belles lunettes. Si vous nous écoutez, regardez la vidéo qui est dispo d'ailleurs sur Spotify et sur bfmbusiness.com. Les lunettes d'Emma sont extraordinaires.
Mais moi, il y a 6 ans, j'osais pas. C'était compliqué pour moi d'assumer mon physique, qui est un peu hors des canons habituels, faut le dire. Et aujourd'hui, je m'en fous complètement. Mais ça a été compliqué pour moi de me dire, allez, je m'expose à la face du monde. Allez, j'ai ma place à prendre, en fait. C'est ça qui est compliqué. Que ce soit sur la photo, ou que ce soit sur les réseaux, ou que ce soit dans la vraie vie, le fait d'oser se montrer, d'oser et s'exprimer, d'oser prendre sa place, c'est se réaliser, c'est vivre. C'est vraiment s'épanouir, en fait.
Parce qu'on est dans une ère du personal branding, on l'a souvent dit dans ce podcast, mais effectivement, on est dans une ère où il faut aussi se montrer pour porter son activité. Christelle, il y a une expression que tu as utilisée et que j'ai oubliée. Enfin, c'est un terme, je pense, psychologique.
Le paradoxe des permissions.
Le paradoxe des permissions. Mmh. Merci, Christelle. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour aider nos auditeurs et nos auditrices à se comprendre?
Ce que j'appelle le paradoxe des permissions, c'est que d'un côté, on a une partie de nous qui a envie de respecter ce qu'on appelle cette partie d'un soi conditionné. J'ai été conditionnée d'une certaine façon, avec telle croyance, telle permission qu'on m'a donnée ou pas, enfant. Et ces permissions, elles m'ont construit. Elles m'ont aussi permis de me réaliser. Attention. Par exemple, si je me suis construite en disant « faut être forte en tant que femme, tu seras à la fois Barbie et entrepreneuse », eh bien, en fait, tu adhères à cela. Et on t'a donné la permission de faire comme ça. Mais du coup, on se conditionne dans ce format-là. Mais est-ce que ce conditionnement est nous? Il y a peut-être un écart entre la personne que j'ai construite et la personne que je suis vraiment. Et il y a un moment Il y a une partie de nous qui va commencer à s'effriter. On ne sait pas à quel âge, très jeune, parce qu'il y en a, ça va se faire à 16 ans, à 20 ans, à 50 ans, peu importe. Il y a une partie d'un soi un peu plus profond, un peu plus authentique. S'il est trop en écart avec le soi conditionné, il y a un moment donné, il va y avoir un désalignement. Et là, on va rentrer dans un conflit intérieur qui va dire, OK, par exemple, moi, je suis le côté entrepreneur, des parents fonctionnaires, la sécurité, c'est super important. Et je ne vais pas dire que ce n'est pas important, mais moi, je suis une créative, j'ai besoin d'aller vers la photo. Et oui, je sais que demain, je ne sais pas si j'aurai un salaire ou pas, mais c'est plus fort que moi.
Et puis, ce ne sont pas mes peurs, en fait. C'est
exactement.
Ça aussi.
Et ce n'est pas forcément plus tes peurs. Là, on a un conflit intérieur. Comment je vais régler le besoin de stabilité et en même temps ce désir artistique. Il y a un moment où on va être dans le conflit et on peut être dans le conflit toute sa vie avec quelle est l'énergie qui va le plus gagner ou alors on choisit ce que j'appelle la troisième voie. Et la troisième voie, c'est d'arriver à harmoniser les deux, à arrêter de faire la guerre entre les deux. Et c'est ça le chemin.
Et quand on sort de ce conditionnement, c'est peut-être là qu'on a ce sentiment de syndrome de l'imposteur, comme tu disais Amélie, parce que finalement, ça veut dire qu'on va vers la direction qui nous parle davantage.
Ça, c'est très intéressant, parce qu'en effet, quand on commence à se dire « Ok, il y a mon moi conditionné, mais je vais commencer quand même à aller sur l'autre partie de moi qui a vraiment envie. Je vais tester. » Si on prend, par exemple, pour un entrepreneur, souvent, je vais à un endroit qui n'était pas l'endroit où j'ai eu un diplôme. Je vais à un endroit où je démarre, mais je n'ai pas forcément les compétences de tout. Je suis désolée, mais un entrepreneur, au début, il est son propre comptable, son propre banquier, son propre marketeur,
son webmaster,
son propre producteur.
Ouais, il fait tout, quoi.
On est d'accord.
Le
il
ménage,
fait tout.
Tout.
Il n'a pas le diplôme, je fais tout. Donc, au fur et à mesure, il avance. Quand il faut lever des fonds, par exemple, on est start-up, on a l'impression que c'est facile de lever des fonds. Quand on le fait la première fois, ce n'est pas notre métier d'origine et qu'on doit commencer à discuter avec des gens en face. On a le syndrome de l'imposteur.
Bien sûr.
Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il faut avoir toutes les compétences pour être crédible. Et on va se rappeler trois choses. Un, il faut être visible. La première chose qu'on a besoin, c'est d'être visible. Et je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est être visible, non pas avec ce qu'on attend de nous, mais par rapport à ce qu'on pense, nous. Tu veux être Barbie, assume-le. Tu veux être visible en tant que Barbie entrepreneur. OK. Ensuite, il faut développer notre crédibilité par rapport à ça, c'est-à-dire donner la preuve de ce qu'on montre. Et si on montre quelqu'un qu'on n'est pas, à un moment donné, ça ne va pas aller. Et le syndrome de l'imposteur, il risque d'être beaucoup plus fort
et gênant. De se développer, de se renforcer.
Et la troisième étape qu'on recherche tous, c'est la légitimité. Mais la légitimité, ce n'est pas nous qui nous la donnons.
C'est le regard des autres.
C'est le regard de l'autre. Et si, en fait, on est légitime pour ce qu'on n'est pas, le oser être soi vaut mieux être légitime pour la personne qu'on est. Et là, le syndrome de l'imposteur, il lâche. Parce qu'on va accepter nos failles au même temps que nos qualités, mais au moins, nous, on est alignés.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, la quête, entre guillemets, c'est l'alignement. C'est l'alignement entre qui on est et ce que l'on accepte de montrer aussi. Parce qu'on n'a pas forcément envie de montrer tout. Donc
c'est la quête. Et cette quête, dans cette quête, il y a le fait quand même de commencer à se montrer, même si ce n'est pas parfait. Et ça prend du temps, je veux dire. Parce que si on attend d'être aligné pour se montrer, ça ne marche pas.
On commence
pas.
Il ne
se passe jamais rien.
Il faut être fan du processus. Moi, je dis souvent ça à mes élèves. Il faut que
le but est dans le chemin, quoi.
Exactement. Et si on est toujours dans la quête de l'émotion finale qu'on va chercher, en fait, au sein du résultat, plus tard, je serai millionnaire, plus tard, j'aurai une grande maison, plus tard, on n'est jamais dans le présent. On n'apprécie jamais vraiment à devenir cette personne qu'on est en train de construire. On ne sera jamais aligné à 100%, on n'aura jamais le résultat final à 100%. On est un processus. Et quand on apprécie le chemin, comme tu le dis, Ludo, eh ben, on est déjà dans l'accomplissement, le soi ultime, en fait. Et moi, c'est ce que j'adore, en fait, dans l'accomplissement.
Amélie.
Et puis, quand tu doutes, moi, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit une phrase très juste. Il me dit, mais est-ce que tu parlerais d'une amie comme tu parles de toi ? Et là, ça a été un vrai choc parce que moi, je suis toujours en train d'encenser les gens, de les mettre en valeur. Et elle m'a dit, mais tu te rends compte regard que tu portes sur toi. Donc les moments où tu doutes pour te montrer, te dire ah bah, je vais être en photo mais je vais pas être assez, j'ai pas assez perdu de poids, j'ai les cheveux trop blancs, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que tu dirais ça d'une amie ?
Il y a deux choses que j'adore rappeler. C'est la théorie de la rame de métro de Charlie Head. On est dans le métro et qu'il y a une personne qui fait la manche, vous savez, qui rentre en fait dans le métro, qui dit monsieur, dame, une petite pièce, etc. Il se passe deux choses en nous. Soit on va le regarder en lui disant oula, moi j'aurais pas osé faire ça, hein. Oh là là, la honte et tout, si j'étais dans la merde, je crois que tant pis, je me laisserais mourir de faim. Ou la deuxième réaction, c'est waouh, quelle audace. Pour nourrir sa famille, il est capable de rentrer dans le métro et dire monsieur, dame, une petite pièce. Dans tous les cas, les gens parlent d'eux-mêmes. Et quand on comprend que notre public, peu importe qu'on soit présentateur d'une émission, qu'on soit photographe, qu'on comprend en fait que les gens en face de nous, ils sont déjà dans leurs propres préoccupations, leur propre prisme. Mais on a passé le step de ne plus jamais se laisser tétaniser par le syndrome de l'imposteur. On l'aura toujours, mais on fait comme du stoïcisme de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec.
Oui, c'est relativiser en disant de toute façon, les regards seront multiples parce qu'on regarde par rapport à soi, donc c'est comme ça, c'est la vie. Oui. Et secondo, finalement, les gens oublient très vite aussi. Moi, c'est souvent ce que je me suis dit, je me dis, les gens oublient très vite. Donc c'est quand ça. Tu vas tester quelque chose, que ce soit sur LinkedIn, etc., ça marche pas. Bah, personne l'a vu finalement.
Ouais, ça sera pas marqué, ça sera pas affiché quelque part.
Mais en fait, te prends pas la tête. Au bout de deux jours, les gens ont oublié, que ce soit partout, sur n'importe quel réseau. Donc,
à moins vraiment de faire un bad buzz, mais c'est vraiment hyper rare. Et il y a quelque chose de très culturel aussi dans le syndrome de l'imposteur.
Mais c'est français.
Pour rebondir sur ce que disait Christelle, il y a l'héritage familial. Mais en France, quand tu essayes quelque chose qui n'est pas. Moi, on m'a dit, mais tu vas devenir photographe, mais t'as pas fait d'études de photo et tout. J'aurais été aux États-Unis, personne m'aurait dit ça. Et en France, on est très. Ah bah, si t'as pas le diplôme A, pour faire le truc B. Enfin, et c'est très contraignant et je pense qu'on est aussi bloqué par ça en France.
Ah, c'est vrai qu'en France, on est vraiment encore dans ce système de diplôme, etc., dans ce fonctionnement.
Encore énormément,
malgré tout ce qu'on peut lire sur LinkedIn avec beaucoup d'entrepreneurs qui s'expriment et qui disent vive les autodidactes et tu peux changer de vie du jour au lendemain. C'est vrai que c'est plus compliqué en France. Moi, je me souviens quand j'ai monté ma première entreprise, elle fonctionnait très bien. C'était une plateforme d'accompagnement pour les auto-entrepreneurs. Et quand je me retrouvais dans les events, parce que moi, j'ai zéro diplôme, j'étais face à des mecs qui avaient des diplômes d'HEC, etc. Et je me sentais vraiment en mode, mais en fait, je suis pas légitime. Et j'ai mis du temps à me dire, ok, Ludo, tu es bon puisque tu fais du chiffre d'affaires, puisque tu as créé des emplois, puisque tu es parti de rien. Donc, tu es aussi légitime qu'un autre entrepreneur.
Et ça, c'est un point hyper important, tu vois, que moi, j'essaie de me rappeler, c'est que les moments où je doute, je le fais rarement, mais je me dis, regarde dans le rétro. J'ai eu une grosse période de doute en octobre.
Et
quelqu'un m'a dit, mais pareil, regarde tout ce que tu as fait. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu le réussis. Et en fait, plutôt que de se dire, ah, bah, je vais là et j'ai peur de rater, regarde aussi tout ce que tu as réussi à faire. Ça te permet de te redonner un peu confiance aussi.
C'est le gros problème des entrepreneurs, ça. C'est-à-dire qu'on voit toujours ce qui reste à construire, mais on ne voit pas tout ce qu'on a déjà fait.
Alors que c'est un bon moyen d'ailleurs de se dire, peut-être de sentir moins le syndrome de l'imposteur, parce qu'on se dit, regarde ce que tu as déjà construit.
C'est ce que je dis, des chiffres factuels.
Et en ce qui concerne notamment même les personnes qui peuvent avoir fait, qui ont fait l'HEC, qui ont fait l'EDEC, qui autres, peu importe, il faut savoir qu'eux-mêmes ont aussi ce syndrome de l'imposteur.
Oui, on l'a tous.
Et ce poids aussi de se dire, mais pareil, j'ai toute cette bardée de diplômes, mais en même temps, on est tous bardés de diplômes, donc elle est où ma différence? Et qu'en fait, ils vont aller chercher autrement une singularité.
Et ce qui est très intéressant dans cet échange, c'est aussi que, moi je sais que dans les grandes écoles de commerce, l'une des premières choses qu'on apprend aux étudiants, c'est avoir confiance en eux. Ça veut dire qu'en fait, on travaille sur l'ego.
Oui. Et puis, qu'il faut venir, quand il y a un conférencier, souvent, quelqu'un qui n'a pas de diplôme. C'est ça que ça me fait toujours, ça m'a toujours amusé.
C'est vrai, j'ai fait une conférence à Dufine l'autre jour.
Oui, mais pourquoi? Parce que justement, il y a de la place pour tout le monde. Et ça me fait rebondir sur quelque chose que je trouve assez exceptionnel aujourd'hui, c'est qu'on est dans une ère où quand quelqu'un est, par exemple, hyper naturel, hyper singulier, tu dis, moi, génial, j'adore ton audace sur les autres. Qu'est-ce que tu es? Tu es toi, tu es hyper naturel. Et ce qu'on est en train, ce qu'on honore, ce qu'on met en valeur, c'est notre naturel, notre authenticité. On est d'accord? Quand quelqu'un dit, oh, j'adore cette personne, elle est hyper naturelle. Vous êtes hyper naturelle. Moi, j'ai des gens qui me disent, tiens, Christelle, quand on vous voit dans la vraie vie ou par rapport à la télé, vous êtes la même, vous êtes hyper naturelle. En fait, je suis la même personne. Mais en réalité, c'est beaucoup plus facile d'être soi que de jouer un rôle. Et en plus, les gens adorent ça. Donc, pourquoi on passe notre temps à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas?
Pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à plein de gens.
Et bien, la prise de conscience est là. L'aimant, c'est être soi. Si on veut être un aimant pour l'autre, plus on est soi. Je donne toujours cette astuce. Quand on est soi naturel, obligatoirement, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Eh bien, ils ne vont pas aimer, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, on va rejeter des gens qui ne correspondent pas.
On ne peut pas être aimé par tout le monde.
Oui, puis c'est surtout qu'en fait, tu vas rejeter des gens. Ce n'est pas grave, puisqu'en fait, j'ai envie de dire, c'est par rapport à ce que tu es. Alors que si, en fait, on joue un personnage par rapport à ce personnage, il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Mais en réalité, du coup, ils aiment qui? Pas moi. Alors moi, s'il y a des gens qui ne m'aiment pas pour ce que je suis, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est ce que je suis. Mais par contre, je vais attirer à moi des gens qui me correspondent vraiment. Et ça nous nourrit, ça participe à l'alignement.
La femme doit séduire, doit être une bonne épouse, une bonne mère et une employée modèle.
On a le poids de la société tout comme les hommes, on a le poids de l'ambition tout comme les hommes, mais on a le poids à travers les siècles du fait que la femme devait être la personne qui devait séduire l'homme, la femme qui devait être aussi au cœur de la société.
Oui, la bonne épouse, la bonne mère, une employée modèle, tu me dis, et elle devait séduire.
Voilà, donc si tu veux, on avait à la fois les casquettes entre guillemets de l'homme, mais on avait aussi les autres casquettes à endosser, donc ça, le sac à dos, il était assez sacrément balèze, tu vois. Donc à un moment
donné, forcément que nous, on s'est mis tellement la pression qu'on s'est enfermé dans un petit peu la figurine de la Wonder Woman, tu vois, où il faut être bonne sur tous les plans. Mais c'est impossible. C'est tout simplement pas faisable. Mais du coup, on court après des chimères, tu vois. On court après un statut qui est impossible.
Et à un moment donné, c'est usant. Et c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui s'empêchent finalement d'être elles-mêmes et de s'exprimer. Quelqu'un veut rebondir sur cet héritage social que souligne Emma?
Bien sûr, l'héritage, Alice. Ça fait très peu de temps déjà qu'on a le droit d'avoir un compte bancaire sans demander l'autorisation à son mari, à sa famille, à son père.
Et vous pouvez même avoir un compte bancaire chez Hello Bank, qui est notre partenaire.
Et c'est vrai que moi, je le ressens auprès de toutes mes pères, ES à la fin, on a toujours cette impression de devoir s'excuser. On a la problématique de l'héritage du fait qu'on est des femmes. On a la problématique de l'héritage qu'on est francophone et que les francophones n'aiment pas être fiers de ce qu'ils font, hein, il faut le dire. Il faut qu'on s'excuse d'arriver là où on arrive parce que tu comprends, j'aurais peut-être pris la place de quelqu'un. Et alors si j'ai vécu des échecs, je les cache. Alors si je suis une femme et que j'ai des échecs, eh ben, c'est normal, évidemment.
Ça fait beaucoup de choses à cacher.
Donc oui, c'est vrai que ça fait pas mal de pression. Alors moi en plus, j'ai pas la chance, le bonheur d'avoir les enfants en plus à rajouter dans ma liste de charge mentale, mais je vois bien quand même que la pression n'est pas la même, notamment pour mon conjoint, notamment pour mon père, mon frère. J'adore les hommes, hein. je cohabite avec eux, je suis même associée avec eux. Je pense que si on est là aujourd'hui avec les filles, c'est qu'on a un message à faire passer, c'est mesdames, n'oubliez pas, nous sommes cycliques aussi, nous portons un bagage qui est lourd, mais ne tombons pas malades tous ces poids qu'on a apportés, quoi. C'est pas facile parce qu'on veut tellement bien faire, on est tellement syndrome de la bonne élève, on a la revanche dans la peau, quoi. Mais ne nous oublions pas, on doit aussi faire
attention. Libérons-nous le syndrome
de la révolution sur le plateau, sur le podcast des indépendants.
Le syndrome de la bonne élève, c'est hyper intéressant, c'est qu'aussi, tu vois, on a fait ça, c'est jamais assez. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, de toute façon, on s'applique, on fait. Ouais. Et qu'en plus, quand t'es une femme qui réussit, on te dit, oui, mais du coup, t'es souvent absente. Et comment tu fais avec tes enfants? Est-ce qu'un homme,
ça,
on lui pose la question encore aujourd'hui?
Moi, quand
je travaillais tous les week-ends en tant que photographe, on me disait, mais qui garde ta fille? J'ai pas son père, mon mari. Enfin, c'est... Et c'était, ah bah, il est gentil. Mais des femmes qui me disaient ça. Et je me dis, mais on s'en sortira jamais, en fait.
Ouais.
Si c'est lui qui travaille le samedi et qui est invité, qui a des déplacements, on lui dit pas, mais comment tu gères tes enfants? Et ça, c'est encore un problème. On est en 2025.
Donc derrière les discours, etc., il y a une réalité, c'est que ça évolue pas beaucoup, quoi, sur ces questions-là.
Ça évolue. Réellement, ça évolue. La preuve, on est là, on en parle. Ça évolue parce que les rôles modèles sont en train de changer. Avant, il y avait des rôles modèles, mais on disait inatteignables. C'était, par exemple, une femme chef d'entreprise, mais à haut vol, au CAC 40. Voilà. Donc c'est-à-dire que les rôles modèles étaient trop éloignés de nous. Maintenant, qui que ce soit, on a une amie, une personne de la famille qui va être soit entrepreneur ou qui a un poste à responsabilité. Donc, les règles changent, d'accord? Et plus ça va aller, plus ça va changer. Par contre, oui, l'héritage du patriarcat qui est là, et donc on peut pas en faire l'économie, c'est une réalité. Les choses auront changé quand tous les hommes seront devenus féministes.
Ouais, les hommes s'engagent.
Hein. Voilà, et que ça sera plus un sujet. Et à côté de ça, il y a aussi dans nos fonctionnements de femmes, cette idée de se dire que c'est souvent les femmes qui sont plus dures avec les autres. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'en fait, il y a un effet miroir. C'est tu oses des choses que j'ose pas, donc ça me met à mal, ça me met inconfortable.
Vous avez ce sentiment que finalement, la sororité, c'est pas toujours vrai, Alice?
Dans l'entrepreneuriat, Emma, c'est compliqué, hein, quand même.
Donc, il y a cet esprit de compétition, quand même, entre femmes.
Alors, c'est terrible, parce que c'est marrant que tu me poses cette question. J'ai perdu une très bonne amie comme ça, qui, un jour, m'a reproché en me disant « Tu fais trop de business, tu penses à l'argent, c'est bon, moi, tes valeurs. » J'ai dit « En fait, donc, une femme qui parle d'argent, c'est donc problématique pour toi. » Donc, c'est tellement ancré en nous. C'est-à-dire qu'une femme qui fait du business, excusez-moi du terme, mais c'est une sale race. Voilà. Dans l'esprit de beaucoup de femmes, c'est un inconscient collectif. C'est-à-dire, je fais du business, je suis forcément la mauvaise personne du groupe. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais l'argent, moi, me permet, c'est une énergie. Ça me permet de créer de l'emploi, ça me permet de réinvestir ailleurs, ça me permet peut-être d'investir dans une association. Les femmes ont tellement associé l'argent au pirate qui vient prendre l'argent. Je n'arrive pas à dire ça. Alors, une femme qui fait de l'argent, oulala, ouh, sorcière, éloignez-vous. Et je pense que, mesdames, nous devons accepter qu'une femme a le droit d'être artisane, a le droit d'être entrepreneur, a le droit d'être animatrice de télé. C'est en fait des rôles modèles qu'on a tellement associés aux hommes que bah, ça ferait de nous de très mauvaises personnes. Et je pense que nous avons le devoir, c'est même pas le pouvoir, c'est le
d'être
devoir
ambitieuse.
Déjà d'être ambitieuse, de montrer à d'autres femmes que c'est possible. Ce n'est pas une quête en soi obligatoire, mais il faut qu'il y ait des rôles modèles de femmes qui le soient. Parce qu'on ne peut pas être que des Elisabeth Borne et des ministres, non. On peut aussi être en costard ou non sur BFM et parler du syndrome de l'imposteur.
Et on adore.
Désolée.
Et on adore. Ça, Emma.
Moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui se mettent souvent dans l'artisanat. Et là, justement, le problème, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à assumer leur posture de chef d'entreprise.
Voilà.
Parce que, justement, elles se positionnent dans la partie créativité, dans la partie je m'éclate, je fais ma passion créative, etc. Mais ce n'est pas incompatible, en fait. Ce n'est pas incompatible d'avoir ta passion créative et d'en vivre. Et le problème, c'est que quand on est dans le secteur de l'artisanat et de la création et de l'artistique, souvent, c'est mal de penser à l'argent.
Et même
en
France, c'est mal de penser à l'argent, même chez les hommes. Hein, on a quand même un problème de parler salaire, chiffre d'affaires. Fin...
Et ça fera l'objet d'une autre émission. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit, je crois que c'est Alice qui a dit, c'est cyclique. Mm. Ça aussi, c'est important parce que qu'on soit une femme ou un homme, je sais que je le ressens aussi, il y a des moments où je suis très en confiance, où je suis très à l'aise avec le fait de montrer ce que je fais, et il y a des moments où c'est plus compliqué. Et ça aussi, il faut l'intégrer parce que c'est pas parce qu'on résout, entre guillemets, cette problématique du syndrome de l'imposteur un jour, qu'on n'aura pas un revers ou un moment plus compliqué ensuite.
Ça dépend, déjà, ça dépend de notre niveau de fatigue, hein, parce qu'on ne peut pas être à 300% tout le temps. Ça n'existe pas non plus, ça. C'est comme Wonder Woman. Ça, c'est une chimère, on l'a inventé.
Oui.
Donc ça,
il ne
faut pas l'oublier. Je veux dire qu'on est, on ne peut pas être au max tout le temps.
On doit aussi comprendre qu'on a une nature humaine. On est tellement dans le faire qu'on oublie d'être dans l'être. Mais à la base, nous sommes Homo sapiens, qui a évolué sur une planète, qui a essayer de faire en sorte de s'adapter à son écosystème, a complètement d'ailleurs déformé l'écosystème, mais bon, peu importe, ça c'est un autre détail, c'est un autre podcast. mais malgré tout, nous avons toujours besoin d'eau, d'air, de respirer, et donc de faire en sorte que notre corps fonctionne correctement. Et nous sommes pleins de cortisol, pics de stress, etc. Et nous déformons aussi cette machine magnifique avec voilà, tout un tas de
stress. On est des êtres vivants, voilà. Et on a des cycles. Et
c'est dommage de l'oublier.
De l'oublier, effectivement. On a des humeurs aussi, hein, Christelle.
Il y a une notion en effet d'humeur, c'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est tout à fait normal de se dire qu'on a des cycles d'humeur. J'ai souvent des gens en consultation, Christelle, mais en ce moment, c'est pas normal parce que je suis un peu en déprime ou je suis en stress. C'est normal de ne pas être dans un encéphalogramme plat. C'est tout à fait normal.
Ouf.
C'est normal.
Non, mais il faut le rappeler. Rappeler parce qu'on a beaucoup de solutions, soi-disant, pour être toujours constant et surtout très aligné, etc. On a le droit d'avoir des moments plus compliqués.
Deux choses que je vais dire. Donc, déjà, premièrement, quand par exemple, je traverse un deuil, une visite, c'est normal d'être malheureux. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir peur, c'est normal.
L'inverse serait même inquiétant.
C'est peut-être traversé, en fait.
Et donc, ça, c'est des choses qu'on traverse dans la vie. On est là, sur Terre, pour de toute manière traverser des expériences de vie. Donc, voilà. Et j'aime bien avoir toujours cette idée un peu de dire, de toute manière, la vie nous amène des expériences qu'on est capable de traverser. Donc ça, c'est la première chose que je voulais rappeler. Deuxième chose concernant cette notion de cycle dans le syndrome de l'imposteur. Quand on traverse des cycles, c'est-à-dire qu'on dit « je l'ai eu à un moment donné, puis ça revient », en fait, c'est pas que ça revient. En réalité, c'est qu'on est en train de traverser des paliers. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a des syndromes de l'imposteur, ils arrivent jamais. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas un truc qui revient toujours le même. Ça veut dire qu'en fait, on a évolué, qu'on a passé un nouveau palier, qu'on rentre dans une nouvelle zone d'inconfort temporaire et que dès qu'on sera adapté là-dedans, il va lâcher. Et puis, il y en a un autre qui va arriver peut-être quand on aura à nouveau un palier. Donc, moi, j'aime bien voir ces moments d'indicateurs de syndrome de l'imposteur. Un peu, vous savez, c'est comme Mario, on arrive à un niveau, on sonne la cloche, et puis on arrive à un palier.
Est-ce qu'il y a des émotions qui ne sont pas le syndrome de l'imposteur, mais qu'on confond beaucoup avec le syndrome de l'imposteur ? Parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce terme, syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui... C'est absolument pas ça.
Oui. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas une émotion.
C'est important de le dire. Et voilà. C'est pour ça qu'on voulait avoir un médecin sur le plateau.
Psychologue. Mais non, je suis pas médecin.
Bah, psychologue. Voilà.
Mais non, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome, donc c'est une sensation, une complétude qu'on va avoir avec différentes émotions qui viennent, convoquer ce moment-là.
C'est intéressant. C'est plusieurs,
la peur,
c'est plein d'émotions qui se combinent et qui vont créer ce sentiment d'être un imposteur.
Je pense que c'est unique. Je pense que tout le monde a un syndrome de l'imposteur qui est presque différent parce qu'on est absolument absolument unique. Nous sommes des êtres uniques. Certains ont des crises d'angoisse, d'autres. Moi, je sais que je passe beaucoup par l'humour. Plus j'ai le syndrome de l'imposteur, plus je suis folle.
Ouais. D'ailleurs, tu montes sur scène, Alice.
Totalement. Et je me roule par terre devant des dirigeants et des cadres. Et je leur explique que c'est pas les pingouins qui dirigeront le monde, c'est les gens comme moi.
et ça m'étonne pas. Je te vois tout à fait faire ça après cet épisode du podcast des Indépendants. Et tu disais d'ailleurs que tu as commencé sur une petite scène où il y avait devant 5 personnes et qu'aujourd'hui, oui, tu fais des TEDx et que c'est aussi ça, hein, pour relever ce syndrome de l'imposteur, c'est d'y aller step by step.
En fait, il faut créer la situation qui nous fait peur, mais y aller tranquillement. Et je rejoins beaucoup la théorie des marches, je l'appelle comme ça aussi dans mon livre. Je trouve que c'est important de ne pas regarder la pyramide Maya dans son ensemble, parce que ça paraît hyper vertigineux quand on voit une grande pyramide. Mmh. Si on voit ça comme des petites marches, des petites étapes, des petits façonnements de syndrome de l'imposteur, bon, c'est un petit syndrome. Allez, hop, je commence devant 4000 personnes, je m'adapte, je m'agite, je me corrige, je me regarde, je vois qu'est-ce qui m'a vraiment profondément mis mal à l'aise avec mon image. Est-ce que c'est quelque chose que je porte de mes parents? Est-ce que c'est quelque chose que, en fait, finalement, qui est un petit peu anecdotique, c'est sympa, finalement, d'avoir des lunettes turquoises. Et finalement, tout le monde me dit que c'est sympa, mais pourquoi je ne mettrais pas les boucles d'oreilles assorties, finalement?
Ça fait penser à Amélie, pardon, qui, pour le coup, avec ses clientes, avec la photo, c'est une première étape, en fait.
Oui, c'est ce que je leur dis, c'est une première marche. Et pour rebondir sur ce qu'ont dit Alice et Christelle, c'est que moi aussi, je vois comment dépasser le syndrome de l'imposteur en voyant des petites marches. Et c'est hyper intéressant ce que tu as dit de... En fait, c'est l'indicateur qu'on a quelque chose à travailler et à dépasser, à traverser. C'est pas, faut pas le voir comme une punition, en fait.
C'est un bon signal.
Si tu essayes de faire genre, ça sert à rien et je veux pas l'entendre, alors que si tu l'écoutes et que tu travailles dessus, c'est là que tu vas dépasser tes peurs et faire des TEDx devant 5000 personnes.
Et c'est effectivement étape par étape. En tout cas, j'aime beaucoup l'énergie dans cette émission qui, j'espère, va aussi permettre à celles et ceux qui écoutent de relativiser aussi ce syndrome et de se dire encore une fois que c'est un signal, que finalement c'est positif, que ça veut dire qu'il y a de nouvelles choses qui les attendent et que ceux qui ne ressentent pas finalement ce syndrome, très souvent, c'est ceux qui reste dans une situation peut-être un peu trop confortable.
Moi, ce que je retiens de notre échange, c'est qu'en fait, on est nous-mêmes notre propre matière première et on se façonne au fur et à mesure. Et en fait, on est dans ce processus-là toute notre vie. Il ne faut pas penser qu'on a un état à atteindre ou une perfection à atteindre. Non, on continue notre chemin tout le temps et on se réaligne. Et en fait, nos envies aussi, elles évoluent.
Il faut oser. Il nous reste très peu de temps. Un dernier mot pour nos auditeurs, pour ceux qui ressentent ce syndrome de l'imposteur, un dernier mot pour leur donner de l'énergie pour dépasser tout ça, Christelle.
Le syndrome de l'imposteur, c'est une lucidité, parce qu'en fait, derrière cela, on est conscient qu'il y a quelque chose qui est un petit nœud, là, et que celui-ci, il faut juste s'autoriser à le dénouer.
Donc c'est prendre de la hauteur sur soi-même. Ouais. Amélie ?
Pour moi, c'est de dire que c'est un indicateur important, mais qui ne doit pas vous paralyser, et que de temps en temps, quand vous en avez marre de l'entendre, vous pouvez baisser un petit peu le son pour pouvoir oser.
C'est vrai.
C'est intéressant ça. Bien vu. Comment on baisse le son, du coup ?
On essaye d'être moins dans le mental et plus dans le... Alors, il y a l'être, comme disait Alice, mais être plus dans le faire et de se dire, si je fais cette petite marche, plutôt que de voir la montagne, je vais voir que je suis capable de faire la petite marche et ça va me donner de l'élan pour la marche d'après encore.
Alice ?
Alors moi, j'aime beaucoup dire qu'on est un amas de molécules qui pensent. La vie est absurde, elle est très courte. Et franchement, vous freinez pas. À la fin, dans l'un seul, on est tout seul. Vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur architecte. Croyez en vous. Et au pire, si vous croyez en vous, il y a des gens qui croiront aussi en vous.
J'aime beaucoup, parce que ça permet vraiment de relativiser. Et puis c'est vrai que la vie est très courte.
C'est absurde, la vie. C'est grotesque. Donc, allez, il faut y aller maintenant. Allez, hop.
Je crois que le message est passé.
Alors moi, dans la même veine qu'Alice, parce que moi, j'ai envie de finir par une touche positive, c'est oublie pas qu'en fait, sois toi-même parce que les autres sont déjà pris.
Voilà.
C'est vrai. C'est important aussi parce que sinon, la place aussi sera prise par quelqu'un d'autre si vous n'y allez pas, alors que vous êtes faite pour ça. Donc vraiment, il faut y aller. Merci à toutes les quatre.
Merci à Lino.
Et merci à vous d'avoir suivi l'épisode 11 de la saison 3 du podcast des Indépendants sur BFM Business. Je vous rappelle qu'on se retrouve un mercredi sur deux. Il nous reste deux épisodes avant la fin de la saison et avant l'été. À bientôt.
C'était le podcast des Indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.